On va d'abord du côté du MEDEF et du CESEC. On s'intéresse aussi à la Rémiti 5 qui a repris la mer samedi dernier. Et puis on retrouvera la Brigade Verte de Tahiti qui a embarqué 300 éco-ambassadeurs ce matin. Le journal de midi, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
Le MEDEF veut auditer l'administration.
Une délégation de syndicats patronaux a rencontré hier le président du pays. Le MEDEF propose de mener un audit des services administratifs dont la lenteur entrave les entreprises et espère mener cette mission à bien avant la fin de l'année. C'est certainement l'un des chantiers les plus importants de cette année parce qu'il aidera des milliers d'entrepreneurs. Voilà ce que dit le président du MEDEF, Steve Amblin. Un chantier qu'aucun gouvernement n'a mené. N'a jamais mené jusqu'à bien, nous dit-il.
Le MEDEF a proposé au président ses moyens logistiques et humains pour aider à moderniser l'administration publique. Et donc c'est aussi un chantier qu'aucun gouvernement n'avait réussi à faire aboutir. Il me semble heureux que le président Mondéasson soit ouvert à notre proposition. Donc il s'agit d'accélérer les procédures administratives. Pour l'entrepreneur, le temps est souvent plus important que l'argent et nous sommes freinés par la lenteur de ces procédures.
Alors le MEDEF va d'abord définir la méthode de travail qui devrait être présentée en conseil des ministres afin que les services soient sensibilisés et mobilisés pour participer aux travaux et que des rencontres puissent aussi être programmées avec les chefs de service. Il s'agit de comprendre le parcours et les embûches des demandes de permis de construire, d'autorisation et de licence, nous dit Steve Amblin. Il s'agira aussi bien sûr des demandes de cabis et du nouveau greffe du tribunal de commerce pour lequel le MEDEF demande aussi à rencontrer les services de l'État. L'autre demande du patronat concerne les délais de paiement du pays.
C'est là-dessus que nous souhaitons aujourd'hui intervenir, c'est la vitesse avec laquelle les transactions sont opérées. Quand un opérateur sur un marché public se fait payer au bout de 9, 10, 12 mois, il finit malheureusement par licencier ou fermer son entreprise. Donc la vitesse avec laquelle l'administration aujourd'hui traite les dossiers du privé ne convient pas aux enjeux.
Voilà, le MEDEF ambitionne de revenir avec des propositions de solutions avant la fin de l'année.
Et puis du côté du CESEC, les conseillers n'ont pas été tendres avec un projet de loi du pays.
Oui, le Conseil social, économique et environnemental a rendu ce matin son avis au sujet du projet de loi du pays relatif à la régulation sectorielle en matière d'énergie. On vous en avait parlé il y a quelques semaines, le pays souhaite transmettre à l'autorité de la concurrence une partie de ses missions de régulation du secteur, à savoir les missions qui permettent de garantir le respect des réglementations dans ces domaines. Ce transfert a pour but de faire de l'APC une sorte d'arbitre neutre sur les questions qui pourraient mettre en concurrence des sociétés privées ou publiques ou partiellement détenues par la Polynésie, comme par exemple l'ATEP ou EDT. Et bien ce matin, le CESEC n'a pas été tendre, donc avec cette idée, il a même fait part de son incompréhension totale quant à ce projet, en regrettant aussi de ne pas avoir pu auditionner l'APC pour préparer son avis. L'institution plaide plutôt pour une convention avec la CRE, l'entité métropolitaine chargée de réguler le secteur de l'énergie. Et le CESEC émet surtout des doutes sur les capacités et compétences de l'autorité de la concurrence sur les sujets techniques que sont les secteurs électriques et gaziers. Sans surprise, le Conseil a donc rendu un avis unanimement défavorable à ce projet.
Une page se tourne à la presqu'île.
Oui, la société Mitirapa Blue Pearl Shrimp, connue pour ses crevettes bleues, a annoncé ce matin la fin de sa production. Après 11 ans de travail acharné, ont écrit les propriétaires sur les réseaux sociaux. Depuis 3 ans, la société a dû faire face à de nombreux défis qui ont rendu la production impossible. Parmi les problèmes évoqués, les propriétaires mentionnent des conditions météorologiques défavorables, des difficultés techniques au niveau de l'écloserie, ainsi que des vols à répétition. Ces facteurs combinés ont finalement conduit à la décision de cette fermeture.
On reste sur la presqu'île. Valdemar, l'Ifremer ouvre ses portes pour son anniversaire.
Ce sera vendredi et samedi à Veirao puisque l'Institut fête ses 40 ans. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur les missions de cet institut de recherche entièrement dédié aux océans et qui gère une centaine de chercheurs, ingénieurs ou techniciens présents également en Nouvelle-Calédonie. Philippe Moelle, son directeur, était l'invité de la rédaction hier. Il a détaillé les différents projets menés par l'Institut et notamment le développement d'huîtres comestibles locales. On l'écoute.
On travaille au développement d'une nouvelle ostréiculture, donc l'ostréiculture tropicale. On est certain qu'elle a un avenir, qu'il y a un marché, qu'elle est endémique, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas importée. Donc on essaie de maîtriser le processus d'écloserie et de grossissement de ces huîtres pour, on l'espère, pouvoir présenter sur nos futurs étals polynésiens des huîtres comestibles, des huîtres labellisées Polynésie d'ici environ 2 ans.
Et ces portes ouvertes, elles permettront aussi au public de découvrir d'autres travaux en cours, et ils sont nombreux, comme par exemple cette aquaculture particulière qui consiste en l'élevage d'espèces utiles pour l'environnement.
On va pouvoir vous présenter nos travaux sur ce qu'on appelle l'aquaculture de restauration. Donc l'aquaculture de restauration, c'est comment réintroduire un certain nombre d'espèces utiles pour l'environnement. On parle de l'oursin, on parle du poisson marava, ici très, très connu en Polynésie. Alors utile pourquoi ? Parce que c'est deux espèces, par exemple, qui luttent contre le blanchissement corallien, mais qui sont aussi des espèces comestibles.
Voilà, tout ça sera donc à découvrir lors des journées portes ouvertes de l'Ifremer, vendredi et samedi à Veirao, de 7h à 15h.
En mer, c'est reparti pour la Remiti 5.
Et oui, il desservait auparavant les Raromatei, mais était à l'arrêt depuis l'arrivée de la Pedahi Express. Il est à l'origine de la scission de l'entreprise familiale De Gage. Toinois De Gage souhaitait vendre ou louer ce navire à grande vitesse, plus gourmand en carburant que son successeur. Son maintien à quai coûtait environ 50 millions de francs par an, mais pas question pour son père, qui a donc repris la gestion des navettes rapides, laissant le ferry à Toinois. Le Remiti 5 peut accueillir 697 passagers et 30 véhicules. Décoration rafraîchie, fauteuil tout neuf, le navire effectue désormais les rotations sur Moorea, complétant l'offre de son petit frère. On écoute Aritea Bernardino, récemment nommé directeur général adjoint de la SNCF Remiti.
Beaucoup disaient qu'on n'allait pas avoir la licence d'exploitation pour le Remiti 5 afin de desservir Moorea. Pour autant, on a expliqué qu'est-ce que l'on souhaitait faire. Donc, ce n'est pas forcément deux bateaux que l'on met en même temps. Le matin, il y a une alternance entre le 5 et le 6 sur les deux premières rotations. Ensuite, le 6 reste à quai. Le 5 navigue pendant la journée. Et la dernière rotation du soir, c'est le 6 qui rentre sur Moorea.
Et à noter que le groupe profite actuellement des soucis rencontrés par le Terevao à l'arrêt depuis le 23 avril, mais il reste vigilant sur les questions de rentabilité, même si les emplois sont déjà passés de 35 en début d'année à 90 aujourd'hui.
Et puis on reste sur un bateau, Valdemar, puisqu'on part en mini-croisière.
Et oui, ce matin, la Brigade Verte de Tahiti a proposé à 300 scolaires de la zone urbaine une croisière éducative entre Tahiti et Moorea. Cette initiative n'est pas la première du genre, elle a lieu chaque année depuis la création de l'association. Elle est organisée dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement et des océans. Elle consiste à faire découvrir aux éco-délégués de plusieurs établissements les problématiques et les enjeux relatifs au changement climatique et à la protection des écosystèmes. Écoutez les précisions du fondateur de l'association organisatrice.
C'est une école de la mer que l'on propose à 300 jeunes qui vont pouvoir bénéficier de spécialistes. Il y a un docteur en biologie marine, il y a vraiment des spécialistes dans leur domaine de prédilection qui vont pouvoir peut-être déclencher des vocations chez certains jeunes qui sont présents ce matin. Et ils sont la dernière génération où on peut encore espérer sauver notre planète. Il n'y a pas de planète B, donc il faut se prendre en main maintenant.
Ludovic Bardou au micro de Vaïkia Réperer. Alors les jeunes participants ont eu l'opportunité de rencontrer les principaux acteurs locaux qui œuvrent pour la protection de l'environnement. Parmi eux, des associations telles que Temana ou Temoana, Tamarii Pointe des Pêcheurs, les Bourdons de Moorea, Manu Matatohora et Coral Gardeners. Des rencontres qui visent non seulement à sensibiliser les jeunes, mais aussi à susciter des vocations.
Ce qu'on essaie d'apporter aussi avec Coral Gardeners, et peut-être que c'est le cas des autres organisations, c'est que c'est aussi un métier nouveau ici en Polynésie. Hein. Il y a jardinier sur la terre, on connaît ça dans les hôtels et tout. Et aujourd'hui, nous, avec Coral Gardeners, on essaie d'apporter un métier aussi dans la mer. Et on veut, du coup, là, c'est l'occasion d'informer les jeunes sur cet éventuel débouché qu'ils peuvent avoir une fois qu'ils sortent de l'école.
Vous avez entendu Loïc Henry, membre, vous l'avez entendu, de Coral Gardeners. Alors, à noter enfin que cette semaine éco-citoyenne n'est pas terminée. Plusieurs autres actions, notamment des ramassages de déchets, sont prévues un peu partout dans les îles. Cette semaine se terminera samedi avec la projection en plein air d'un film à partir de 17h au parc Paofei.
Les parachutistes polynésiens sont honorés en France.
Et oui, cette nuit à Tahiti, le président de la République a salué la mémoire des parachutistes tahitiens lors des cérémonies des 80 ans du débarquement. Incorporés dans les commandos britanniques, ils ont pris part au combat de la libération. Et parmi eux, 10 volontaires qui ont été largués sur la Bretagne la veille du jour J du débarquement et dans les jours qui ont suivi. Une histoire moins connue que celle du bataillon du Pacifique que nous raconte Jean-Christophe Chiguetomi.
Certains d'entre eux vont être engagés dès la nuit du 5 au 6 juin 1944, avant le débarquement. Ils sont parachutés en Bretagne pour pouvoir entraver la progression des troupes allemandes qui vont monter vers la Normandie. Ils sont 10 et le 12 juin, ils sont donc parachutés à leur tour sur la Bretagne. Ils vont combattre quand leur camp va être attaqué à Saint-Marcel le 18 juin.
Voilà, une histoire à découvrir sur notre site radio1.pf. Deux des petits-enfants d'Albert Matahiapo Colombani, natif de Wahine, étaient d'ailleurs en France pour assister aux commémorations.
Du côté de la Nouvelle-Calédonie, Val-de-Marne, l'État a dévoilé les mesures d'urgence.
Un fonds de solidarité nationale permettra aux TPE et PME de toucher jusqu'à 3 000 euros pour le mois de mai et jusqu'à 6 000 euros pour juin. L'État prendra en charge à hauteur de 50% le financement du chômage partiel. Un moratoire de 3 mois est accordé sur les prêts aux entreprises par les banques. Des prêts garantis par l'État sont aussi lancés pour la reconstruction. Pour les assurances, un contingent d'experts est arrivé sur le caillou et le versement d'acompte devrait suivre dans la semaine de l'expertise. Enfin, un comité de suivi de haut niveau se tiendra tous les mois avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire, la ministre déléguée aux Outre-mer Marine Guévenoux, le gouvernement, les provinces et le monde économique.
Et toujours sur le caillou, il reste très difficile de rassembler tout le monde autour de la table.
Oui, l'Union calédonienne, dont la commission exécutive s'est réunie hier, réaffirme qu'elle refuse de participer tant que l'État ne retire pas officiellement le texte sur le dégel du corps électoral. Elle n'ira donc pas rencontrer la mission de dialogue actuellement sur place. De son côté, Bercy a annoncé les mesures de soutien, on l'a dit, économique à la Nouvelle-Calédonie. Des mesures de prêts à trésorerie à taux zéro ont également été actées, on ne l'a pas dit tout à l'heure.
Et pour finir, un tour en salle d'examen.
Oui, ce sont les candidates à Miss Tahiti qui ont dû plancher il y a quelques jours sur un test de culture générale, passage obligatoire de l'élection dont la note compte pour 10% sur la note globale. Alors au programme, beaucoup de questions sur les Jeux Olympiques, il fallait trouver l'année de la première édition des JO modernes, le nom du premier médaillé d'or en surf ou encore ce que symbolisent les 5 anneaux entrelacés sur le drapeau. Des questions aussi sur la Polynésie, sur l'ancêtre des Maoris, le nom du navire de James Cook ou la hauteur du mont Rohena, mais aussi de vocabulaire, que signifie par exemple l'adjectif sibyllin ou encore ineffable. Du cinéma, de la culture, de l'anglais et même de la logique, si vous voulez vous y essayer, le test complet est à retrouver sur radio1.pf. Voilà, c'est la fin de cette édition. Juste avant de nous quitter, une petite information météo. Sachez que l'ensemble des Australies, compris Rapa, est passé en vigilance orange ce matin après les fortes précipitations subies par Rimatara et Rurutu hier et qui se généralisent à l'archipel entier aujourd'hui. Météo France prévoit une amélioration jeudi soir. Quant à nous, on se retrouve à 16h pour votre dernier rendez-vous avec l'info. C'est bien sûr avec le flash de la rédaction.
Merci beaucoup Baldemar, on passe à la météo.